Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
De 9h-10h, côté expert sur France Bleu La Rochelle, Jean-Luc Porte.
Le véhicule électrique utilitaire est-il adapté aux besoins des professionnels aujourd'hui, des professionnels en tout genre? On va poser la question à Marc Guillemot du site internet voitureélectrique.eu. Bonjour Marc.
Bonjour Jean-Luc.
Tout va bien?
Mais très bien, la température est idéale pour les voitures électriques.
C'est vrai.
Il y a une vraie différence, il faut le savoir, entre les températures froides et les températures clémentes.
Ça a une importance sur les batteries,
l'autonomie,
évidemment.
Tout à fait.
Sur l'autonomie des batteries. Comme le vent d'ailleurs, je pense
absolument,
à ça.
Absolument,
le vent. Pour vous qui avez la chance d'habiter sur une de nos quatre îles, Charentaise Maritime.
Tout à fait, sur l'autoroute, notamment quand on roule à une vitesse un peu élevée de 130 km/h, le vent a une forte incidence sur l'autonomie, bien sûr.
Ça peut réduire l'autonomie de 20 à 30%, nous aviez dit de mémoire la
dernière
fois.
Absolument, ça peut être, si le vent est vraiment de face et assez fort, ça va vraiment avoir une incidence.
Et voilà, c'est comme les marins, quand on a une voiture électrique, il faut regarder aussi la carte des vents.
Absolument, et on est content. Et on est content quand le vent vient de l'arrière.
Et regarder les ports où on va pouvoir faire étape, évidemment, pour refaire le plein d'électricité, le plein de kilowatts dans sa voiture. On invite bien sûr les auditeurs, Marc, à vous appeler au 05 46 50 67 68 concernant toutes les questions possibles et imaginables sur les voitures et les véhicules électriques. La différence, évidemment, c'est que le véhicule, c'est plutôt un utilitaire, si on parle du monde professionnel.
Oui, tout à fait, mais on a aussi des véhicules qui sont des utilitaires tout petits pour aller dans les centres-villes. Donc le véhicule électrique au sens large comprend la voiture, la camionnette ou le petit tricycle, il y en a maintenant, qui fonctionne très bien pour livrer les centres-villes.
Allez, vous voulez participer à l'émission, c'est au 05 46 50 67 68 que cela se passe jusqu'à 10h. On parle de véhicules électriques ce matin dans les experts avec Marc Guillemot de voitureélectrique.eu. Vos questions au 05 46 50 67 68. Et la question qu'on se pose ce matin, c'est la suivante. Marc, les véhicules électriques utilitaires, les utilitaires aujourd'hui, sont-ils adaptés aux besoins des professionnels? Alors les artisans, les commerçants, les professions libérales notamment?
Oui, il y a deux freins pour ces gens-là. Il y a évidemment le coût. Puisque jusqu'à encore pas très longtemps, la voiture, le véhicule électrique était quand même commercialisé à des prix supérieurs à un équivalent thermique.
De l'ordre ?
De l'ordre de 30 à 40% en plus. Il y a certaines voitures électriques qui sont vendues quand même beaucoup, beaucoup plus chères que leur équivalent thermique.
Mais avec plus d'aide ?
Alors il y a les aides, mais malgré tout on était quand même sur des gros écarts qui sont en train de se réduire progressivement on assiste aujourd'hui à un équilibre, puisqu'entre le jeu des aides, le jeu des bonus qui sont encore présents, même s'ils ont un petit peu réduit, ils sont encore là. On arrive à un loyer, quand un artisan veut louer sur 3 ans ou 4 ans une camionnette, on arrive à un loyer qui est équivalent sur un Renault Trafic par exemple, on arrive à un loyer équivalent entre une voiture thermique et électrique. Donc le prix ne devrait plus poser de problème à l'artisan qui souhaite demain changer son véhicule. Après, le deuxième frein, évidemment, c'est l'usage. Il ne faut pas que l'artisan soit freiné dans ses déplacements, qu'il soit inquiété dans son travail parce qu'il a une voiture, il a un véhicule électrique. Donc là, il faut effectivement organiser un petit peu les choses. Mais si l'artisan ne fait pas plus de 200 km par jour et qu'il a une solution de recharge à son domicile, c'est plus un problème. Et puis il faut adapter les usages. Il y a la possibilité pour un artisan, lorsqu'il est dans un chantier par exemple toute la journée, d'organiser son travail pour recharger sa voiture pendant qu'il travaille. Il faut pas hésiter à organiser les choses comme ça. Il n'y a pas de honte à dire à un client, bah écoutez, voilà, j'ai besoin de recharger ou de laisser brancher ma voiture toute l'après-midi pour rentrer chez moi tranquillement le soir. Donc ça, c'est des choses qu'il faut organiser. C'est vrai que il y a des contraintes, mais il y a aussi un vrai avantage, c'est qu'on n'a plus besoin de passer à la pompe pour aller chercher du carburant.
Ça, c'est vrai. Et au bout du bout, effectivement, donc aujourd'hui, les budgets s'équilibrent. Hein, c'est ce que vous nous dites dans le cas d'un, par exemple, d'un Renault Trafic. Qui est un véhicule enfin, extrêmement courant absolument. Dans le monde de l'artisanat.
On y arrive enfin.
Il aura fallu plus de 10 ans.
Il aura fallu plus de 10 ans et la route est encore longue, hein, c'est pas fini. Il faut encore organiser son trajet, il faut prévoir ses recharges. Donc tout ça, c'est des choses qui sont contraignantes, c'est clair. Mais après, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut continuer à aller chercher du carburant fossile ou est-ce qu'on souhaite aller se tourner vers une énergie un petit peu plus verte.
Allez, vous voulez poser des questions bien précises hein, sur ce thème ce matin à Marc Guillemot, notre spécialiste des véhicules électriques en tout genre et des utilitaires électriques en l'occurrence ce samedi matin. Vous composez le 05 46 50 67 68. Ceci dit, Marc, puisqu'on parlait du futur hôpital de La Rochelle, possiblement opérationnel en 2035, c'est aussi une date qui parle à tous les automobilistes, puisqu'en théorie, nous dit l'Union Européenne, la fin des véhicules thermiques, c'est là, 2035.
Oui, des véhicules neufs, je pense qu'il en restera encore d'occasion, mais effectivement, c'est évident qu'un chantier tel que celui de l'hôpital de La Rochelle va organiser, c'est certainement déjà prévu, le parking sera organisé avec un gros volume de bandes de recharge.
Vous ne voyez que c'est par votre évidence. Côté électrique. Bah,
je pense que c'est une évidence, c'est une obligation même, je crois, quand on construit aujourd'hui des bâtiments neufs. Donc effectivement, 2035, quand on ira à l'hôpital de La Rochelle, on pourra se stationner et recharger sa voiture pendant qu'on est en consultation.
Mais pour les artisans qui nous écoutent ce matin, effectivement, alors on peut déjà commencer à se poser la question, parce que 2035, bah, c'est dans 10 ans, quoi. Ça arrive vite.
Oui, et puis maintenant, avec les zones, les ZFE, il y a un certain nombre de centres-villes où on ne pourra plus accéder avec une voiture qui est considérée comme polluante.
Ouais. Voilà. Les véhicules utilitaires électriques sont-ils adaptés à vos besoins, vous les professionnels? Vous voulez avoir quelques précisions concernant notamment les différents dispositifs qui sont à votre disposition, qui sont peut-être aussi cumulables, je ne sais pas. Venez interroger en tout cas Marc Guillemot, qui est notre expert ce matin jusqu'à 10h. Les utilitaires électriques sont-ils adaptés aux besoins des professionnels aujourd'hui? Vos questions à Marc Guillemot, notre spécialiste des véhicules électriques, au 05 46 50 67 68. Dans l'acte d'achat ou de location, évidemment, Marc, le premier critère, bien souvent, c'est celui du porte-monnaie. Vous l'avez dit, hein, les véhicules électriques sont d'une manière générale, ou en tout cas l'étaient, plus chers que des véhicules thermiques classiques.
Oui, alors nos constructeurs usent de stratagèmes pour faire en sorte que l'addition soit la moins forte possible.
Avec une incitation gouvernementale aussi.
Voilà, il y a des aides, il y a deux types d'aides. Il y a d'abord la prime à la conversion, ça c'est quand on rend au concessionnaire une voiture ancienne avec une vignette au-delà de la vignette critère 3. Donc là, cette voiture est reprise par le concessionnaire et l'État vient abonder cette reprise avec ce qu'on appelle la prime à la conversion.
Dans le cadre d'un leasing
Peu importe. Là, c'est quand on rend la voiture, on a cette prime. Et ensuite, quand on achète une voiture, on a le bonus écologique qui s'appelle comme ça, qui lui, alors, est soumis à conditions de revenus. Donc le montant est toujours fonction des revenus de l'acheteur. Et puis il est aussi soumis à certaines règles régionales ou départementales. Lorsque la société est implantée dans une ZFE, donc dans une zone qui est dédiée au centre-ville notamment, on a accès aussi là à une autre aide. Donc moi il y a vraiment deux sources pour savoir dans quelle situation on se trouve.
Juste avant de donner vos sources, Marc, ce qui est très bien, hein, ceci dit, vous n'avez pas parlé de chiffres là, c'est volontairement concernant la prime à la conversion et le bonus écologique. Vous avez dit, on a droit à une prime à la conversion, on a droit à un bonus écologique,
oui.
soumis à condition de revenu, ça vous l'avez dit.
Oui.
Vous n'avez pas parlé d'argent, il n'y a pas de somme spécifique parce que ça bouge.
Ça bouge. Le bonus écologique, lui, est de 3000 euros aujourd'hui. La prime à la conversion est de 6000 euros, mais elle est soumise... faut vraiment regarder son cas précis.
Ouais.
Donc c'est pour ça que je veux citer deux sources que moi j'utilise dans le présent cas. Il y a le site du gouvernement, jechangemavoiture.gouv.fr, qui lui donne des informations très précises en temps réel, parce que les lois sur le sujet sont extrêmement mouvantes. Et puis il y a une deuxième source qu'il faut utiliser, c'est son concessionnaire. Parce que lui, en fonction de votre situation et de l'endroit où vous vous trouvez, aura les bonnes informations pour votre cas.
D'accord.
Donc c'est vraiment d'aller voir les 3-4 concessionnaires des 3-4 marques qui vous semblent pertinentes pour votre changement de voiture ou de véhicule.
Et là, faut faire jouer la concurrence.
Il faut faire jouer la concurrence, mais le concessionnaire, lui, sera vraiment au fait de la, parce qu'il est très intéressé pour vous vendre une voiture ou un véhicule.
Mmh.
Donc c'est lui qui aura la meilleure source d'information en temps réel. Et en plus, les concessionnaires, notamment dans le cadre de systèmes de leasing ou de LOA, font souvent des promotions, font souvent des journées portes ouvertes,
ouais.
des week-ends intéressants. Donc, mm-hmm. il faut vraiment aller voir son concessionnaire.
Et...
ou s'adresser à un site gouvernemental.
Et vous, avec votre site, hein, vous êtes au fait de l'actualité, évidemment, voitureelectrique.eu, est-ce que vous constatez aujourd'hui que les artisans, les commerçants, les professions libérales se tournent vers les utilitaires électriques ?
Pas beaucoup, pas encore, parce qu'on a peur de l'usage, parce qu'on est inquiet, on a toujours la peur de la panne, la peur d'être en panne sèche, alors que cette panne est pas fondée du tout, dans la mesure où, lorsqu'on a une voiture électrique ou un véhicule électrique, on est capable vraiment d'organiser sa journée et faire en sorte de ne pas tomber en panne.
Mmh, évidemment. Voilà, 05 46 50 67 68, numéro à composer hein, si vous souhaitez intervenir dans l'émission et poser votre question en direct à Marc Guillemot qui est avec vous jusqu'à 10h ce matin.
Côté expert, jusqu'à 10h sur France Bleu La Rochelle.
Les utilitaires électriques sont-ils adaptés aux besoins des professionnels ? Aujourd'hui, Marc Guillemot, voitureelectrique.eu est là pour répondre aux questions des auditeurs. Jacques, bonjour, depuis le pays royanais. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour.
Depuis Royan même, hein, tout court.
La Rochelle. Oui, je voudrais parler à M. Guillemot.
Eh bien, posez-lui votre question.
Je voudrais m'éclairer un petit peu, parce que je rejoins tout à fait son idée de voiture électrique en ville. Les utilitaires aussi. Mais si tout le monde se met à la voiture électrique, que va-t-on faire des batteries par la suite ? Parce qu'on connaît les effets des déchets toxiques. Hein, on peut donner des tas d'exemples là-dessus. Je ne vois pas comment on peut admettre qu'une voiture qui fait 2 tonnes, 3 tonnes ou 4 tonnes soit une voiture électrique. Alors j'aimerais que M. Guillemot me donne des explications sur ce sujet, s'il vous plaît.
Alors,
quant à la voiture électrique en ville, je le conçois tout à fait. Je trouve qu'on peut maîtriser ce genre de véhicule en petite quantité, il n'y a pas de souci.
Mm-hmm. Très bien Jacques. La voiture électrique est un petit peu moins lourde et c'est une question à laquelle vous avez déjà répondu hein, concernant le recyclage des batteries, Marc.
Oui, la voiture électrique urbaine est moins lourde, elle a des plus petites batteries, donc effectivement tout ça c'est beaucoup plus simple. Elle va peser une tonne deux, alors qu'une voiture qui va être utilisée pour faire de la route va peser facilement 2 tonnes. Néanmoins, quelle que soit la taille des batteries, on va recycler les batteries. Aujourd'hui, il n'y a pas encore le besoin parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de batteries complètement déchargées et complètement inutilisables parce qu'il n'y a pas assez, il n'y a pas eu assez de voitures vendues.
Ça dure combien de temps une batterie ?
Bon, une bonne dizaine d'années.
Oui.
Renault, qui vend des Zoé depuis plus de 10 ans, commence à récupérer ses batteries, ces voitures qui sont sur les routes depuis 10 ans.
Et alors la question que légitimement Jacques se pose sur que deviennent ces batteries après.
On va recycler les batteries. Il y a deux usines actuellement dans le nord de la France qui sont en construction. On va recycler les batteries à environ 95%. Il y a 95% des matériaux qui composent une batterie qui vont être réutilisés pour refaire une nouvelle batterie.
C'est du réemploi en plus. Ouais.
C'est du réemploi. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne le fait pas d'abord parce qu'il n'y avait pas de besoin. Mais c'est une évidence. On ne va pas aller soutirer dans les terres dans les terres de la planète des métaux et des matériaux ad vitam aeternam. On va réutiliser et on va démonter et désosser complètement toutes les batteries qui vont revenir au bout de 10 ans parce qu'elles seront plus suffisamment utilisables pour une voiture. Il y a aussi un réemploi, il y a Nissan qui travaille sur ce sujet-là. Il y a un réemploi des batteries en statique. Donc quand on met des panneaux solaires sur le toit d'un immeuble de bureau par exemple, il est plutôt bon d'utiliser cette énergie pour charger des batteries. Et du coup, une batterie qui n'est plus utilisable pour une voiture parce qu'elle n'a plus que 50% de capacité, elle peut tout à fait être utilisée dans le sous-sol de l'immeuble pour emmagasiner l'énergie solaire pendant la journée. Oui.
Bon. Est-ce que vous êtes rassuré un peu, Jacques ?
Alors, je suis rassuré si j'ai l'avis de M. Guillemot et qu'il correspond à l'avis des chercheurs et des scientifiques, parce que je vais vous donner un exemple. À Tonnet-Charente, il a plu beaucoup ces derniers temps. Les déchets toxiques sont ressortis, bien sûr, de sous terre. Et puis, il y a tout un secteur qui avait été bâti avec des maisons, des couples, des enfants qui habitaient. Et c'est tellement toxique que maintenant, ces gens sont obligés de s'en aller. Les enfants vont certainement avoir des cancers, les parents aussi. Mmh. Et ils n'ont plus de maison, ils ne savent plus où aller. Donc, des fois, on voit pas plus loin que le bout de son nez. Mmh. Mais si on a fait le tour de la question, hein, il y avait l'abbé Pierre qui disait la responsabilité de chacun implique de vouloir savoir avant d'oser dire et d'oser faire. Ça veut dire qu'il faut faire le tour entier de la question. Mais si vous avez tenu compte des avis des scientifiques, des chercheurs, de ceci et de cela, et que vous pouvez me confirmer qu'il n'y a que 5% de la batterie qui va poser problème, mais on saura peut-être dans 10 ans régler le problème, ça me rassure un peu, mais faut pas pousser le balancier d'un côté complètement à un moment donné et puis de se dire c'est pas la solution, on le balance à l'opposé, parce que c'est comme la politique, hein. Que ça soit complètement gauche ou complètement droite, si on n'arrive pas à réfléchir et à avoir des finalités et puis savoir ce qu'on va faire et puis voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, eh ben on va certainement trouver des solutions ensemble.
Merci Marc, merci Jacques en tout cas, pardon, de votre intervention ce matin. Vous souhaite une belle journée, un bon week-end du côté.
Je vous remercie beaucoup Radio Bleu, La Rochelle. Alors, merci beaucoup. J'aime bien vos informations et vous écouter tout au long de la journée. Alors, j'ai 76 ans.
C'est bien. Alors Jacques, si vous merci nous écoutez Jacques. Toute la journée, vous savez qu'on s'appelle France Bleu, hein, désormais.
Ok, France Bleu.
Ça marche. Allez, bon week-end. Bon week-end Jacques, du côté de Royan. Question qui continue au 05 46 50 67 68. Pour vous, Marc, je l'ai bien dit cette fois, c'est Eric qui nous appelle de Chanier dans un petit instant. L'utilisation des véhicules utilitaires électriques, notamment, correspond-il aux besoins des professionnels aujourd'hui? C'est l'axe de discussion que nous avons ce matin avec un ami de la Maison Bleue, Marc Guillemot de voitureélectrique.eu, à qui les auditeurs, évidemment, vous les auditeurs, posent leurs questions. Eric à Chanier, bonjour, bienvenue, merci d'avoir patienté, Eric.
De rien, bonjour à tout le monde.
Bonjour, bienvenue, on vous écoute. Bonjour.
Oui, moi ma question, est-ce que vous avez des informations sur comment sera compensée la taxe sur les produits pétroliers quand tous les véhicules seront en électrique?
Est-ce que vous êtes dans le secret des dieux, Marc?
Je ne suis pas dans le secret des dieux. Maintenant, il y a fort à parier que...
Ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les carburants sont énormément taxés par l'État.
Mais je pense qu'il y a fort à parier qu'on aura le même schéma sur l'électricité, notamment quand on recharge sur les superchargeurs sur les autoroutes ou dans les proximités des villes. Il sera assez facile de dire à l'opérateur, mais écoutez, voilà, Aujourd'hui, c'est 69 centimes, je prends un exemple, le kilowatt. Eh bien, on va rajouter une taxe sur ce prix-là. Maintenant, j'ai rien lu sur ce sujet encore. Je pense que c'est encore un petit peu trop tôt. Et puis, il faut savoir, quand on a une voiture électrique, on recharge quand même beaucoup à son domicile ou à son bureau.
Et oui, et comment on va faire la différence entre l'électricité ménagère et l'électricité automobile ?
Ah, ça c'est une bonne réflexion, Eric.
Certains d'Enedis disent que ce sera facilement traçable, qu'on pourra facilement savoir que c'est une voiture et non pas le four à micro-ondes qui est en marche, qui est en fonction. On n'y est pas, hein, on n'y est pas encore. Je pense qu'on a un petit peu de temps avant de se poser cette question.
Quand même.
Mais ça va arriver.
C'est bien d'anticiper, Eric, comme ça. Hein.
Oui, parce que pour les entreprises, c'est un investissement à long terme. Un véhicule, c'est pour 5 à 10 ans. La compensation, c'est très rapide. C'est pas un investissement de 5 à 10 ans. Et peut-être, il y aura peut-être une solution à voir si les véhicules peuvent être rechargés le week-end ou certains jours en rotation avec des panneaux solaires. Est-ce que ça suffirait pour les recharger? C'est une étude aussi à faire.
Ah, aussi, oui.
Effectivement, le panneau solaire dans notre région est très utile. Il permet de recharger la journée. Alors, il y a un certain nombre de véhicules qui arrivent sur le marché qui sont avec un protocole qui s'appelle le V2G, le véhicule to grid. Donc, on peut recharger son véhicule avec un panneau solaire la journée et le soir utiliser l'énergie de la batterie pour faire sa cuisson sur sa plaque à induction. Donc, il y a beaucoup de solutions. La batterie du véhicule électrique devient une batterie tampon, finalement, entre le panneau solaire et l'usage qu'on peut avoir dans son domicile. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. C'est pour ça qu'avant de parler de taxes, de remplacement de la taxe sur les produits pétroliers, il y a beaucoup d'usages qui vont faire qu'on va quand même être vertueux avec une voiture électrique et sa batterie.
Dans une logique étatique, c'est vrai qu'il faut des sous, de toute façon.
De toute façon, il faut des sous, absolument. On est d'accord.
J'avais entendu parler, je crois que c'est Renault avec une entreprise anglaise qui envisage de récupérer les anciennes batteries des véhicules pour les recycler, pour en faire des batteries à domicile, justement, pour les utiliser sur
en statique. J'en parlais tout à l'heure. Oui, il y a un sujet avec des batteries qui sont qui commencent à être en fin de vie, en tout cas en milieu à partir du milieu de la.
Elles sont plus assez puissantes.
Absolument.
Elles ont 50% de puissance.
Mais largement suffisantes pour stocker sur du solaire sur les maisons, je crois.
Absolument. C'est une vraie aide et c'est vrai que le panneau solaire est très bien adapté si on a une batterie à côté.
Ce qui va poser une autre question, c'est que si on se met tous au solaire avec des batteries de recyclage, comment va vivre EDF?
C'est vrai l'été quand il y a du soleil, mais c'est vrai qu'il y a quand même des phases l'hiver où c'est moins aisé.
Mais ça marche aussi sans le soleil, hein, les panneaux photovoltaïques.
Moins bien quand même.
Eh bien, merci d'être venu nourrir un petit peu la discussion avec nous, Eric, ce matin.
Eh ben, de rien,
j'imagine que si vous avez un panneau photovoltaïque sur votre toit à Chaniers, ça va fonctionner en pleine autonomie aujourd'hui.
J'y réfléchis, mais justement, je pense que à l'inverse, en réalité, le véhicule électrique est beaucoup plus adapté à la vie rurale, puisqu'on peut avoir justement des maisons qui vont avoir des petites stations voltaïques qui peuvent recharger la voiture dans la journée. Et donc, on doit le reconnaître, il y a beaucoup de retraités chez nous quand même. Donc, c'est des gens qui pourraient être quasiment en autonomie sur leur voiture, à recharger leur voiture la journée, puisqu'ils vont pas l'utiliser, ils vont pas faire les 300 km dans la journée. Donc, on peut avoir une recharge cumulée sur 2-3 jours et avoir sa voiture en permanence chargée sur du solaire. Mais bon, après, c'est une question de coût, hein. C'est une question de coût après, hein.
La prochaine Renault 5 qui va être fabriquée en France.
Renault 5 revient. Oui,
la Renault 5 électrique qui va être commercialisée dans quelques mois. Cette voiture est équipée du système V2G. Donc vous pourrez la brancher sur votre panneau solaire la journée et l'utiliser, comme je le disais, le soir pour mettre votre chauffage ou votre four.
Merci Eric en tout cas.
De rien, bonne journée.
D'être venu alimenter la discussion ce matin autour des véhicules électriques en compagnie de Marc Guimot qui est avec nous jusqu'à 10h sur France Bleu. Allez, la suite de vos experts au 05 46 50 67 68. On parle de véhicules électriques utilitaires. Ce matin, sont-ils adaptés aux besoins des professionnels? Et on pose la question à Marc Guillemot de voitureélectrique.eu. Il y a des petites questions à se poser avant de choisir son véhicule concernant la technologie des batteries. Lithium-ion, c'est l'usage courant maintenant pour tout le monde?
Oui, aujourd'hui c'est ce qu'on retrouve de façon régulière, notamment chez les constructeurs comme Renault, Nissan ou autres.
Sont les plus performantes et plus durables?
Alors oui, elles sont durables. C'est vrai qu'on a des durées de vie qui sont quand même très correctes sur une Renault Zoé. C'est la plus ancienne des voitures vendues, la voiture électrique vendue depuis plus de 10 ans.
Avec la batterie lithium-ion, hein, je disais.
Tout à fait. Ouais. On a des batteries solides qui arrivent. Donc pour faire simple, une batterie solide, elle va à poids et à volume égal avoir le double de capacité et recharger deux fois plus vite.
Ah, c'est bien.
Donc on a vraiment fait très peu de recherche et de développement sur le sujet.
Ce sont les prémices. Hein.
On est vraiment au balbutiement de la voiture électrique. Faut bien le savoir, faut bien s'en rendre compte. Rappelons-nous des premiers téléphones portables qu'on a eu dans les années 95. Je m'en souviens très bien. On avait un gros téléphone qui
fallait la brouette pour le porter. Hein, c'est ça.
Presque. Ah oui. Alors ça, c'est les tout premiers.
Sketch des inconnus assez rigolo
absolument,
là-dessus.
On avait une valise pour porter le téléphone. Ouais. Bon, ben, on va avoir la même chose. Il va se passer la même chose en matière de véhicules électriques. Donc, les batteries vont être de plus en plus performantes, de moins en moins lourdes, et elles vont se recharger de plus en plus vite.
Parmi les autres petits conseils, Marc, il faut préférer peut-être des voitures qui ont fait leurs preuves dans le métier.
Oui, c'est vrai que
pour les utilitaires.
C'est vrai que dans les utilitaires,
ça se sait en général ce
absolument,
genre de choses.
Absolument, on a des constructeurs qui généralement pour les utilitaires utilisent, sans jeu de mots, le même véhicule, la même voiture que celle qui existe en thermique. Nissan, Renault, Peugeot font des voitures qui d'ailleurs portent souvent le même nom que leur équivalent thermique. Effectivement, les voitures utilitaires, on a un peu plus de place pour mettre les batteries, donc c'est moins contraignant que sur une petite citadine où effectivement on a évidemment plus de difficultés à loger les batteries sur les utilitaires. Les constructeurs n'ont pas cette problématique.
Puisque vous parlez des modèles, vous les testez régulièrement dans véhiculeselectrique.eu,
voitureelectrique.eu, tout à fait.
Et vous mettez vos données à vous, hein.
Oui,
celles que vous faites.
Quand on
pas les données constructeurs.
Quand on fait un essai, on va donner en fonction de la condition de conduite, de la météo, puisque elle a effectivement aussi un vrai impact. Quand il fait froid, on a beaucoup moins d'autonomie que quand il fait 20 degrés comme aujourd'hui.
Et vous notez tout.
Mais on note tout, on donne les vraies autonomies constatées, alors que c'est vrai que les normes qui sont affichées par les constructeurs sont généralement...
dans les conditions optimales.
Elles sont dans des conditions optimales et bien souvent difficilement atteignables dans la vraie vie.
Bon, il y a des modèles qui marchent bien chez les utilitaires, qui peuvent intéresser les artisans qui nous écoutent.
Oui, un Renault Trafic, il faut pas avoir peur de passer de son Renault Trafic diesel à un Renault Trafic électrique.
Ça fait 200 bornes?
Ça fait 200 km, c'est très agréable à conduire. Je rappelle que conduire une voiture électrique ou un véhicule électrique est extrêmement plaisant, et c'est encore plus vrai avec un véhicule utilitaire. On n'a pas de bruit, il n'y a pas de vibration, c'est très agréable à conduire, et ça ne gâche pas le plaisir de travailler.
Comme on a cité le Renault Trafic, pour être dans les clous, on peut citer un ou deux modèles des marques concurrentes.
Oui. Après,
qui fonctionnent bien, hein, j'entends. Attention.
Après, il y a un petit coup de cœur, c'est le l'ID Buzz de Volkswagen, qui lui est un dérivé du combi, qui est extrêmement séduisant.
C'est
il a un super look.
Volkswagen.
Absolument, il a un super look. Et d'ailleurs, il est aussi proposé en version familiale avec 5 places et la possibilité de l'aménager arrière. Il est très rigolo. Il est très beau et il a aussi une bonne autonomie. Hein. On a entre 200 et 250 km sur autoroute sans problème.
Un petit troisième?
Un petit troisième. Il y a Nissan qui propose. Et puis Opel aussi.
C'est le combo Opel? Non, c'est pas ça?
Opel, j'ai plus son nom en tête, mais Opel fait un.
Non, combo, ça doit être Ford.
Combi. Mais chez Opel, on a effectivement un utilitaire qui est assez subdisant, qui vient du groupe Stellantis, puisque Opel fait partie du groupe Stellantis, donc qui propose une technologie qui est également assez séduisante.
Bon, on retrouve en tout cas tous les essais sur votre site internet voitureelectrique.eu. Marc Guillemot, merci d'être venu répondre aux questions des auditeurs.
Bonne journée.
Et à nos propres questions, évidemment.